Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Pour t'accorder mes faveurs, je ne tiens nullement compte de ton état de sécheresse ou de ferveur. Tout ce que je réclame, c'est la confiance en moi et cet amour constant qui, même en face de la difficulté, sait garder courage et rester inébranlablement fidèle au bien-aimé. Amis auditeurs, bonjour. Cette vérité que révèle notre Jésus à Marcel Van résonne de manière particulière en ce temps de carême. Revenons aujourd'hui sur cette spiritualité enseignée par le ciel à l'occasion de colloques, de dialogues avec le serviteur de Dieu Marcel Van. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour évoquer cette spiritualité, notre invité d'aujourd'hui est Don Olivier de Rouillac. Bonjour mon père.
Bonjour Joseph.
Don Olivier de Rouillac, vous êtes moine à l'abbaye de Saint-Vandrille et postulateur pour la cause de béatification de Marcel Van. Mon père, pour nos auditeurs qui entendent peut-être parler pour la première fois de Marcel Van, pouvez-vous nous le présenter ?
Alors rapidement, Marcel Van est un Vietnamien qui est né en 1928 dans une famille chrétienne. Et très rapidement, son grand désir a été de devenir prêtre à l'âge de 6 ans, après avoir fait sa première communion. Et pour cela, il est parti dans une cure, une maison Dieu, pour apprendre les rudiments de la langue, du latin aussi, et se préparer à rentrer au séminaire. Bon, malheureusement, dans ces maisons Dieu, à l'époque de Vannes, La vie n'était pas très brillante, et pas mal de décadence. Beaucoup de jeunes qui étaient là alors qu'ils n'avaient pas la vocation, mais ne rentraient pas dans leur village parce qu'on pensait qu'ils étaient consacrés déjà et qu'ils ne trouvaient pas à se marier. Et dans cette cure, eh bien, si les débuts ont été merveilleux, Van était tout petit, il avait à peine 7 ans, très très vite les choses se sont gâtées parce qu'il agaçait les grands qui n'avaient pas la vocation, et Van était très pieux, très fidèle à la prière, avec des bonnes idées, et il s'est fait humilier, battre, persécuter, mais il a tenu bon. Et puis, finalement, il est rentré chez lui après de nombreuses péripéties, et il a été admis dans une cure tenue par deux dominicains français à Kanguyen, tout près de la Chine. Et là, Van fait la découverte d'un livre qui va beaucoup marquer sa vie, qui est l'histoire d'une âme. La vie donc de Thérèse de Lisieux. Quelques jours après, il se reconnaît dans ce livre-là, et quelques jours après, il a la surprise d'entendre Sainte Thérèse lui parler du haut du ciel, en lui disant « Tu as une âme en tout point semblable à la mienne. » Et Sainte Thérèse va le guider spirituellement, parce que Van ne trouve pas grand monde qui soit capable de le comprendre. Et elle lui fait comprendre que sa vocation n'est pas d'être prêtre, mais d'être religieux. Et elle ne dit pas où. Et Van lui demande, mais où ça? Elle dit, c'est la Vierge Marie qui te le dira. Et dans cette cure de Kanguyen, il trouve la revue des rédemptoristes Notre-Dame du Perpétuel Secours, une revue où on aime beaucoup la Vierge Marie, et il dit, eh bien c'est là que je veux rentrer. Et c'est ce qu'il fera à l'âge de 16 ans, de façon un petit peu étonnante. Il est accepté chez les rédemptoristes de Hanoï, qui sont des missionnaires québécois. Donc un milieu francophone, mais pas français. Et là, Van rentre dans la communauté. Au bout d'un an, il commence un noviciat. Et là, il est pris en charge par le maître des novices, qui s'appelle le père Antonio Boucher, lequel est extrêmement étonné par tout ce que Van lui raconte, par sa vie, ce qu'il vit, et il va lui demander, il va l'accompagner, il va éprouver son obéissance, et peu à peu, il va non seulement croire aux voix que Van dit recevoir du ciel, à savoir de Jésus, de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, mais il va aussi lui demander d'écrire sa vie. C'est ainsi que nous le connaissons. En 1975, le père Antonio Boucher rentre au Canada, au Québec, Et là, il passe 20 ans de sa vie à traduire tous les écrits de Van en français, un très bon français. Et c'est lui qui va désirer lancer la cause de béatification. Bon, ça ne se fera pas tout de suite parce que ça traîne. Les rédempteurs disent « mais oui, il est amoureux de son petit novice ». Et finalement, après de nombreuses pourparlers, la cause démarre au Québec avec les rédempteuristes. Et puis finalement, le supérieur de Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec dit à Madame de Blaye, qui a monté une association pour parrainer ses meilleurs du Vietnam, il lui dit « écoutez, puisque la cause est si importante pour la France, parce que Van est très connu en France, eh bien nous vous proposons de le reprendre ». Et c'est comme ça que les amis de Van sont devenus acteurs de la cause de béatification d'un Marcel Van.
Mon père, je reviens sur ces colloques, ces dialogues entre non seulement notre Seigneur Jésus-Christ, mais également la Vierge Marie et Sainte Thérèse avec Marcel Van. Je reviens sur la place qu'a spécifiquement la Vierge Marie. Elle est très présente dans la vie de Marcel Van. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'elle lui dit, ce qu'elle lui enseigne et quelle est sa place dans la croissance spirituelle de Marcel Van ?
Alors, c'est très intéressant parce que au Vietnam, les chrétiens sont tous pratiquants et très pieux. Et dans le village de Van, qui s'appelle Nham Zao, il y avait Nham qui était le village chrétien et Zao, le village bouddhiste. Les chrétiens avaient coutume d'aller à la messe tous les matins, tôt le matin à 5 heures, et de dire le chapelet, puis un deuxième à midi, un troisième le soir. Donc Van va vivre à ce rythme-là. Et lorsqu'il est tout enfant, il ne sait pas encore, il n'est pas capable de dire le chapelet tout seul, eh bien il va enquiquiner sa mère jusqu'à temps qu'elle dise le chapelet. Et là, il se calme et sa mère peut enfin faire son travail tout en disant le chapelet. Donc très vite, il y a cette intimité qui se noue avec la Vierge Marie. Et il dit dans sa biographie qu'il a demandé deux choses, plusieurs choses à la Vierge Marie, dont deux choses. Ne jamais dire de paroles grossières et d'être à l'heure pour tous les exercices de piété. Et sa mère est assez surprise parce que autant il était compliqué de le faire arrêter ses jeux pour aller déjeuner, autant pour l'heure de la visite au Saint-Sacrement, il est toujours à l'heure. Et à peu tel point que quand elle le voyait arriver, elle savait que c'était l'heure de partir. Voilà, ça c'est assez amusant. Un peu plus grand, il a 5 ans et demi, 6 ans, et bien il est chez sa tante. Et ses cousins et cousines sont plus âgés que lui, donc il est un petit peu seul, il aime beaucoup jouer, et pris par le jeu, par tout ce qui fait l'univers d'un petit garçon, il se rend compte que peu à peu, ses défauts reviennent. Il devient un peu plus dur, il devient boudeur, pleurnicheur, il perd sa joie, son entrain, au point que ça ennuie sa tante qui s'inquiète. Et dans sa prière, elle comprend, la Vierge Marie lui fait comprendre qu'en fait, c'est parce qu'il a oublié de réciter le chapelet chaque jour. Alors il va reprendre le chapelet, et tout de suite, sa joie et son entrain reviennent, sa bonne humeur et son obéissance. Donc c'est très beau. Et toute sa vie, en fait, il dira le chapelet tous les jours, il comptera sur la Vierge Marie. Un peu plus tard, il rentre à la maison, il est question de la première communion, mais il est un peu jeune, le curé hésite, sa maman lui dit, on va voir le curé lui dit, on va en parler. Et il ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors sa mère lui dit, écoute, viens, on va à l'église, on va confesser à la Vierge Marie, et tout se passera bien. Et de fait, Van a pu faire sa première communion avec le jour prévu avec tous les autres. Ce n'était pas une évidence. Plus tard, dans cette cure de Huobang, où il était un peu maltraité, complètement maltraité, des grands, pas très priants, étaient agacés de le voir avec son chapelet à la main. Donc ils l'ont confisqué, une fois, deux fois, trois fois. Et finalement, il dit, finalement, je vais compter sur mes doigts. Et puis, tant pis, parce que si on me coupe les doigts, eh bien, c'est pas grave, je veux continuer à vénérer la Vierge Marie. Et il écrit ceci, c'est grâce à cette pratique du chapelet que Marie, ma mère, est toujours venue à mon secours, forçant le démon à me craindre, si bien qu'il n'a jamais réussi à me vaincre. Ce qui est tout à fait exact. Donc voilà, le chapelet pour Van est l'arme du combat spirituel et aussi le moyen de s'unir tendrement à sa maman du ciel, qu'il aime beaucoup. Et c'est assez amusant parce qu'à une époque de sa vie, quand il écrira des lettres au mois de mai, au lieu de dire le 15 mai 1949, il dira le 4 mai 1949. Parce que c'est loin de Marie.
Est-ce que mon père, vous diriez qu'il y a un message de la Vierge Marie pour Marcel Van et par extension pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'on peut retirer, nous, pour notre vie spirituelle, de cette relation entre Marcel Van et la Vierge Marie?
Alors, avec le chapelet, l'arme du compas spirituel et la confiance en Marie qui va le conduire à mieux connaître Jésus. J'aime beaucoup cette image. À un moment, il a une vision où il se voit âgé de 5 ans sur les genoux de la Vierge Marie avec Jésus. Et c'est la Vierge Marie qui permet à Van et à Jésus de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et la bonne connaissance de Jésus intime se fait grâce à l'intervention de la Vierge Marie. Et n'oublions pas que la Vierge Marie, dit le Concile, est l'image de l'Église. Et de la même manière, c'est l'Église qui nous apprend à connaître et à aimer Jésus.
Marcel Van est très intime de la Vierge Marie. Il est également très intime de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il prendra véritablement pour grande sœur. C'est très touchant de voir qu'ils rient ensemble, qu'ils parlent comme de vrais amis. Qu'est-ce que cette relation nous enseigne sur la communion des saints, mon père?
Cette relation nous montre que les saints, en fait, sont des frères et sœurs aînés dans la foi. Alors, avec les frères et sœurs, il y en a avec qui on est plus intime que d'autres, parce qu'on a plus ou moins de points communs. Et là, Van, en fait, Sainte Thérèse lui dit « Tu as une âme en tout semblable à la mienne. Et Dieu m'a confié le soin de veiller sur toi comme l'ange gardien de ta vie. » Donc les saints, ils sont là, et bien finalement, pour nous aider à leur manière à mener le chemin, notre chemin sur terre. Et ils peuvent dire « J'ai l'expérience. Moi aussi, j'ai vécu des choses joyeuses, difficiles, et voilà comment le Seigneur m'a aidé. » Donc, prends conscience. Et c'est là où la vie des saints, et je pense un très grand témoignage pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous donne des éléments pour nous aider à grandir dans la foi. Et nous sommes souvent appelés à butiner chez différents saints, justement pour trouver notre miel qui nous conduit vers le Seigneur.
On reste avec vous, Don Olivier de Roulac, mais tout de suite, c'est l'heure de notre pause musicale. On se retrouve tout de suite, juste après ça.
Je suis toujours joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne. Ce n'est pas la joie, mais bien l'amour qui est ma source de joie. Mon Jésus, comme tu es beau, et combien profonde ta tendresse. Je suis toujours joyeux par amour, même si je passe par la souffrance, ou sous le coup d'une profonde tristesse, mon cœur ne cesse de vivre en paix. Ce n'est pas la joie qui est cause de ma joie, même si je n'ai rien à craindre, même si mon cœur bondit de joie, c'est toujours là un effet de l'amour. Je suis toujours joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne. Joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne.
Amis auditeurs, vous venez d'écouter Toujours joyeux par amour, un poème de Marcel Van mis en musique par un frère de la famille Marie Jeunesse, une communauté québécoise, et nous retrouvons Don Olivier de Roulac, moine à l'abbaye de Saint-Vendry et postulateur pour la cause de béatification de Marcel Van. Mon père, dans la vie de Marcel Van, la souffrance tient une place particulière, elle semble même être omniprésente, Et pourtant, cela n'empêche pas le petit Van d'être profondément heureux. Comment expliquer cela ?
Alors, ça n'a pas toujours été comme cela, puisqu'effectivement, la souffrance, il l'a connue très petit, à la cour de Wubang, et puis après, aussi avec ses parents qui ne comprenaient pas ce qu'il vivait. Donc, pratiquement, il s'est retrouvé comme un étranger dans sa propre famille. Et il est arrivé à un point, il y avait 12 ans, et se disant, mais finalement, plus personne ne peut me supporter. Et peut-être même que le bon Dieu ne peut plus me supporter. Et donc, j'irai en enfer. Et il dit à la Vierge Marie, eh bien voilà, moi je veux faire la volonté de bon Dieu, donc si je vais en enfer, eh bien c'est pour glorifier Dieu, il faudra que tu m'aides à glorifier Dieu. Et il dit, cette prière que j'ai un petit peu résumée, hein, eh bien il dit, quand je fais cette prière, eh bien cela repoussait le démon. Parce que cette idée de dire qu'il ira en enfer ne vient pas de Dieu, mais du démon. Et puis approche Noël, il va se confesser, et le curé lui dit deux choses. Parmi tout ce que tu as dit, il n'y a rien qui ait vraiment fait de la peine au bon Dieu. Et deuxième chose, si tu as autant connu la croix, c'est un signe que tu as été choisi.
Donc la croix est un signe d'élection de Dieu qui intervient au cœur de nos vies, aussi pour nous faire grandir spirituellement.
Exactement. Mais quand on a 12 ans, c'est difficile à comprendre.
Bien sûr.
Et puis arrive la nuit de Noël. Bien sûr, il va à la messe de la nuit avec toute la famille. Arrive le moment de la communion. Voilà ce qu'il écrit. Je ne sais plus où chercher la lumière et un peu d'amour pour réchauffer la demeure vide de mon cœur. À ce moment, Jésus seul est tout mon espoir. Je soupire après sa venue et uniquement après sa venue. Et il communie. Et il dit ceci. Je suis hors de moi, comme si j'avais trouvé le trésor le plus précieux jamais rencontré dans ma vie. Quel bonheur et quelle douceur! À ces moments, pourquoi mes souffrances me paraissent-elles si belles? Impossible de le dire, impossible de décrire cette beauté en la comparant avec quelque beauté terrestre. Et puis, un peu plus loin, il dit, je n'avais plus peur de la souffrance. Au contraire, je me réjouissais et prenais plaisir à trouver des occasions de souffrir. Mon drapeau de conquête flottera désormais sur la colline de l'amour. Dieu m'a confié une mission. Celle de changer la souffrance en bonheur. Je ne supprime pas la souffrance, mais je la change en bonheur. Puisant sa force dans l'amour, ma vie ne sera plus désormais que source de bonheur. Donc voilà le grand événement de la vie de Van, sa nuit de Noël, comme Sainte Thérèse. Eh bien, toutes ces souffrances ont un sens. Elles prennent un sens, et maintenant il dit, voilà, ma mission, c'est changer la souffrance en bonheur.
Ça revient à ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Ma joie, c'est souffrir sans le dire pour que Jésus soit consolé. »
Exactement, tout à fait. Et c'est exactement ce qui va avancer. Moi, je crois vraiment, si vous voulez, que lorsque Jésus aime une âme, il lui fait partager sa plus grande œuvre. Comme nous, quand on aime quelqu'un, on lui fait partager ce qu'on a de plus cher. Et bien pour Jésus, ce qui est le plus important, je crois, et dans sa mission terrestre, c'est effectivement sa passion et sa résurrection. Et donc, toute âme qu'il aime, eh bien, il l'appelle, dans une certaine mesure, à participer à sa croix et sa résurrection. Donc, à participer, finalement, à son acte rédempteur. Jésus est l'unique rédempteur, mais il nous demande, si nous voulons bien, entrer dans cette démarche. Et Van le fait, à partir de ce jour, complètement. Il écrira même une poésie, « Je suis un petit rédempteur. » Et tout ce que je fais par amour, c'est pour Jésus,
comme rédempteur. Je rebondis sur ce que vous dites, mon père. Notre Seigneur Jésus-Christ pose à un moment une question à Van. Je cite, « toute petite épouse de mon amour, veux-tu conduire à mon amour un grand nombre d'âmes? N'oublie pas que ce sera au prix de grandes souffrances. Je t'ai choisi pour être la mère des âmes. Or, c'est ta force de souffrance que la mère parvient à faire de ses enfants des personnes de valeur. » Mon père, quelle est cette maternité spirituelle et qui sont les enfants de Marcel Van ?
Alors, très bien. Alors, déjà, quand Jésus dit à Van, tu es ma petite épouse, il explique que toute âme qui m'aime est mon épouse. Et que finalement, lorsque l'on aime Jésus, cet amour conjugal est la forme la plus haute. Si, Jésus lui dira plus tard, si dans les rapports avec Jésus, on n'a pas les sentiments de l'épouse à l'égard de l'époux, Si on n'a pas les sentiments de l'enfant à l'égard de son père, alors on ne sait plus aimer. Alors bien sûr, l'épouse est appelée à devenir mère. Donc en fait, toutes les souffrances qui vont advenir vont se transformer en source de vie, tout simplement. Et c'est très amusant, j'aime beaucoup cette image où Jésus donne à Avan une bonbonnière. Et Avan lui dit, dans ta bonbonnière, j'aime pas beaucoup prendre deux choses dedans parce qu'il y a des bons bonbons bien sucrés, mais aussi des herbes amères. Et ça, j'aime pas, je préfère les rejeter. Et Jésus lui répond, ça serait contraire à la pauvreté. Et il dit, tu vois, si tu mangeais que des bons bonbons, eh ben tu t'en lasserais. Et les herbes amères, il faut que tu les mâches soigneusement pour produire du bon lait pour les âmes. On croit entendre Saint Paul, hein, qui dit, je vous donne du lait à boire parce que vous êtes encore trop petit pour avoir quelque chose de solide. Donc voilà. Et donc, toute cette offrande de sa souffrance, eh bien, va se transformer en arme pour le combat spirituel. C'est ce que va dire la Vierge Marie à Vannes. Hein, tu aides, tu fais une réserve de nourriture pour ceux qui vont combattre. Et en même temps, par ses souffrances, Vannes vraiment va éveiller des âmes à la foi. Alors déjà maintenant, déjà, il a beaucoup prié pour les prêtres. Hein, il était très, très soucieux. Il va dire, pour les prêtres, je ne suis pas prêtre et je ne serai jamais parce que Dieu ne m'y appelle pas. Mais je crois que j'ai mieux compris que les prêtres ce qu'est le mystère de leur vie. Ça, c'est extraordinaire. Il a toujours prié pour les prêtres. Donc ça, c'est déjà des enfants pour Vannes. Et quand Vannes, Sainte-Thérèse explique à Vannes qu'il ne sera pas prêtre, il dit, mais tous mes désirs, tous mes souhaits, est-ce que je peux les donner à une autre âme? Et Sainte-Thérèse sourit, et lui dit, bah, écoute, Jésus est d'accord. Et alors, on peut penser à beaucoup, mais je sais qu'au moment à un moment donné, quand on en parlait beaucoup, eh bien, beaucoup de prêtres ont dit, ce prêtre-là, c'est moi, au moins une dizaine. Voilà. Je pense que parmi tous ces prêtres, il y en a un autre, un Vietnamien qui est très célèbre, qui est le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui a été le postulateur à la cause de Vannes.
Mon père...
Il y a deux enfants spéciaux pour Vannes. Il y a son père. Hein, son père s'était mis à boire, à jouer. Il a quand même perdu la maison au jeu. Hein, donc la famille est très pauvre. Il se convertira juste après la mort de Vannes. Vannes a toujours prié pour lui. Et un jour, il est inquiet et il demande à Jésus un signe. Il dit, je voudrais qu'on me dise que mon père a fait ses Pâques, s'est confessé, a communié. Deux jours après, quelqu'un lui dit, eh bien voilà, j'ai eu ton père qui a communié. Voilà, donc ça c'est le signe. Et l'autre personne, c'est un médecin franc-maçon, un Français, qui venait soigner les rédemptoristes gratuitement. Et ce médecin était très malade, et en fait, il est tellement malade qu'il est mort. Et la nuit de sa mort, enfin, on sait qu'il allait mourir, les rédemptoristes allaient le voir, lui proposer de se confesser, de se réconcilier avec Dieu, mais il a toujours refusé. Et cette nuit-là, Vannes se réveille parce qu'il est très chaud, très chaud. La pluie de sa fenêtre est bouillant. Il meurt de soif. Il descend, puis il voit un prêtre qui est pris dans la chambre du médecin. Il se dit, ça, il est en train de mourir. Et il remonte chez lui. Et là, cette souffrance, cette terrible chaleur qui l'envahit, pour le médecin. Et subitement, tout s'arrête. Et puis il se couche, il dort, puis il se renseigne le lendemain, et effectivement, le médecin est mort au moment où cette chaleur s'est arrêtée. Et il a dit, Seigneur, je veux savoir si le médecin est sauvé. Et il lui a envoyé un signe. Le signe, c'était la guérison de son père.
Mon père, j'aimerais aussi évoquer avec vous la fin de la vie de Marcel Vannes dans un camp de prisonniers communistes dans le nord du Vietnam. Il mourra à l'âge de 31 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter la fin de sa vie dans ce camp qui n'est pas évoqué dans l'autobiographie?
Ah ben, pour cause. Et pour cause. Alors, en fait, dans ce camp, il était entraîné avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup de prêtres aussi. Et dans ce camp, il y avait tous ces religieux avaient un grand désir de communion. Evan, qui était assez astucieux et malin, a réussi après à prendre contact avec un catéchiste qui n'était pas loin du camp. Et ils se sont mis d'accord, je parle des petits billets, pour ramener la communion. Et Vannes pensait que c'était le moment, il a quitté le camp pour chercher la communion, mais pendant ce temps-là, on s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un, on l'a retrouvé, et là, il a été effectivement repris et mis au cachot. Mais voilà, c'est très beau, et cette soif vraiment de cette communion. Vannes, dans ce camp, disait, je suis comme un petit curé de campagne, j'ai pas de force, mais tout le monde vient à moi, parce qu'en fait, il était tellement habité par Jésus, qui était là, il dit, Jésus, je voudrais mourir. Je lui dis, mais je veux bien faire ta volonté, comme tu as toujours fait la mienne. Mais tu vois, moi, dans ce camp, je n'ai que toi pour me donner aux armes. Van lui répond, Seigneur, c'est à toi d'y penser. Et 10 ans après la mort de Van, les prisonniers, qui n'ont pas connu, en parlaient et trouvaient de la force en pensant à lui.
Merci beaucoup, Don Olivier de Roulac, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que le livre des colloques de Marcel Van ou encore son autobiographie sont disponibles en librairie. N'hésitons pas à relayer largement ce podcast autour de nous. C'est très simple, vous allez sur le site de Rue Notre-Dame, vous tapez Orient Extrême, vous retrouvez le podcast. Et n'hésitons pas à prier par l'intercession de Marcel Van, particulièrement pour la France en ces temps compliqués. Excellente semaine à vous, amis auditeurs. Que la paix soit avec vous.